RFI présente le Ciné Club Afrique au musée d'Appert. Vendredi 14 décembre à 20h30, Cocorico Monsieur Poulet de Dallarou.
Comme son titre l'indique, Cocorico Monsieur Poulet est une comédie endiablée, au sens propre du terme. Un voyage mémorable sur les pistes nigériennes, à bord d'une vieille de chevaux brinque-ballante. Un film signé par trois joyeux acolytes, Damouré, Lame et Rouche, Jean Rouche.
Le Ciné Club Afrique au musée d'Appert, à Paris, avec Racine. Plus d'infos sur RFI.fr. Culture vive, Yasmine Chouaki.
Il y a en ce moment à Paris un théâtre qui vénère le rire irrévérencieux et qui se permet d'accueillir avec une banane jusque-là l'univers claustrophobique et chamailleur de Roland Dubillard. Alors de son fauteuil, on découvre la robinetterie d'un langage dopé à l'onomatopée, au non-sens et au raisonnement qui a pas fait tapon de ping-pong, tapon, tapon depuis au moins 5 ans. Franchement, c'est pas raisonnable. Tout ça grâce au dialogue de Dubillard avec nos invités Jacques Gamblin et François Morel, mis en orbite par Anne Bourgeois sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Dialogue qui déplie les mots de tous les jours pour en faire sortir du cocasse, du loufoque, de l'angoisse existentielle planquée derrière un rhume. Chut, maintenant plus un mot, comme si nous y étions, nous y sommes, dans le noir, la pénombre se fait, on aperçoit deux hommes côte à côte, juchés sur un petit rocher.
1, 2, 3, hop! Voilà, ça c'est bien vous. Vous dites hop et puis vous ne sautez pas.
Mais comment donc? Je n'ai pas sauté parce que vous, vous n'avez pas sauté.
Comment j'ai pas sauté? Bien entendu, j'ai pas sauté, j'avais pas sauté tout seul.
Comment tout seul? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions tous les deux ensemble. Si vous ne plongez pas, moi je ne plonge pas non plus, voilà tout.
Mais si vous ne plongez pas, ne dites pas hop. Parce que quand vous avez dit hop, moi pour un peu, je plongeais, s'en est fallu d'un rien. Heureusement, je vous ai regardé.
Mais moi aussi, je vous ai regardé. C'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre l'équilibre. Si je ne m'étais pas retenu juste à temps.
Oh, quel menteur vous êtes. Vous avez dit hop pour que moi je plonge, mais vous, vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé.
J'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul et que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier parce qu'enfin quoi, avez-vous plongé ou non?
Non, j'ai pas plongé parce que j'étais sûr que vous ne plongeriez pas.
Mais qu'est-ce que vous saviez que je ne plongerais pas? Il fallait plonger quand j'ai dit hop et à ce moment-là, moi aussi j'aurais plongé.
Oh, si vous attendez que je plonge pour plonger, moi je n'appelle pas ça plonger ensemble.
Nous cherchons la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider à quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge parce que si vous plongez sur le H et que je plonge sur le P, alors moi je serai en retard.
Bon, il n'y a qu'à plonger sur le haut, voilà tout.
Vous feriez mieux de plonger dedans.
Quoi, dedans?
Dans l'eau.
Jacques Gamblin, bonjour.
Bonjour.
François Morel, itou.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, du haut de mon petit rocher, moi j'ai envie de vous demander...
C'est une lune.
C'est une demi-lune.
Vous parlez du rocher?
Oui. Bah, après...
Vous faites des compliments en engueulant les gens.
Chacun voit ce qu'il veut bien voir, hein.
Bon. Première question, on va essayer de faire une interview un peu classique. Hein.
Oui.
Ça fait comment de plonger dans l'univers de Dubillard, François Morel?
Ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait plaisir, d'abord. Je trouve que c'est vraiment des mots qui sont faits exactement pour que ce soit dit sur une scène de théâtre. C'est là où ça vit le mieux. C'est-à-dire qu'on peut essayer de lire du Dubillard quelquefois. Il y a des choses qui nous échappent et qu'on comprend quand on le profère devant des gens et quand on a un partenaire aussi magnifique que Jacques Gamblin.
Oh!
Ils sont chauds tous les deux. Mais quel duo! Vous n'arrêtez pas d'être un duo dans la vie aussi. Jacques Gamblin, ça fait quelque
chose. Pas un duo dans la vie, enfin bon, pas pour l'instant.
On s'apprécie, on se respecte, c'est déjà quand même la base d'un travail.
Dubillard, c'est quand même un type à prendre avec des pincettes, c'est un type qui peut dire, non seulement je suis inutile, mais j'éternue. Là, on se demande où on met les pieds.
On met les pieds dans la métaphysique. C'est vrai que le fond est extrêmement noir, et je trouve que c'est quand même l'intérêt du spectacle, c'est que c'est un rire, dans le fond, assez ambitieux. Parce qu'il y a pas mal de spectacles qui se font sur la vie sexuelle de Sarkozy, sur la largeur des strings, des choses comme ça. Et là, finalement, on rigole sur la métaphysique, sur la difficulté de vivre, sur la difficulté de parler à l'autre, c'est-à-dire des choses qui nous animent, qui nous angoissent dans la vie. Et avec ce triste-là, il en fait du très drôle.
Sur comment remplir le vide de l'ennui.
Vous avez l'air de vous y connaître. Hein. envie de l'ennui, Jacques Gamblin.
Non, mais lui, oui, je trouve, oui. Je trouve que c'est toujours à chaque fois, quand un sketch démarre, c'est toujours au milieu du vide. C'est posé au milieu de nulle part. C'est deux êtres qui ont besoin de dire des mots ensemble pour être moins seuls. Ça part toujours quand même du rien, quoi. C'est toujours une phrase qui tombe. On sait pas du tout ce qu'elle va être et qu'est-ce qu'elle va déclencher. Et on sait jamais jusqu'où ça va aller. Donc c'est en suspens. C'est une écriture comme ça en suspens. Alors être extrêmement drôlatique aussi, et c'est ça qui est chouette, justement.
On va y revenir. Alors, on va dire un mot quand même sur Du Billard, cet étranger au monde que le monde a peut-être rejeté, un déplacé définitif, a dit le critique Robert Benayoun, un auteur-acteur qui faisait le pitre à la radio dans les années 60 avec Grégoire et Amédée, sont les cousins de Bouvard et Pécuchet, vous seriez peut-être d'accord. Oui. Vous avez la sensation que cet auteur-acteur écrit spécifiquement pour les acteurs, Jacques Gamblin?
Ah oui, enfin en tout cas là pour les dialogues, c'est une certitude, c'est ça laisse beaucoup beaucoup de place au jeu, à l'interprétation. C'est une écriture à la fois très rythmée, bien sûr, hein, il y a quand même quelque chose du tac au tac, hein, c'est de la réplique courte, c'est de l'invention permanente comme ça, et donc faut respecter les rythmes de ça, sinon on est cuit, hein. Mais en même temps, ça laisse une grande marge de liberté, bizarrement, parce qu'en fait c'est un théâtre jubilatoire. Donc si on n'est pas dans le conditionnement de l'acteur pour jouer ça tous les soirs, c'est ça. C'est, on a envie avec François de jubiler, d'avoir du plaisir, de jouer ensemble, de se marrer, quoi, comme on s'est marré à le fabriquer en répétition.
Il faut être joyeux pour jouer du théâtre désespéré.
Ah oui. Ah bah oui.
Oui, sûrement. Ah oui.
Excusez-moi,
c'est la moindre des politesses. Ouais.
Alors on va prouver tout de suite que Du Billard est par définition radiophonique, puisqu'à l'origine, les Diablogues étaient une série radiophonique culte des années 50, François Morel, vous avez raison, avant de devenir un classique du théâtre comique français. Donc, grand moment de radio, avec un deuxième extrait des Diablogues. Si je vous dis compte-gouttes, François Morel, Jacques Gamblin.
2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 10 gouttes, il a dit le docteur, avant les deux principaux repas.
Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? Moi, j'en ai compté 12.
Vous êtes sûr?
Je me suis peut-être trompé. L'important, c'est que vous soyez sûr de votre compte.
Sûr. Comment voulez-vous que je sois sûr? Faudrait que je recompte.
Moi, à votre place, je recompterai parce que sur le flacon, c'est marqué ne pas dépasser la dose prescrite.
Ben oui, mais comment voulez-vous que je les recompte? Moi, les gouttes, maintenant, on ne les voit plus. Elles se sont mélangées dans le verre.
Ah bah alors ça fait rien.
Comment ça fait rien?
Bah oui, du moment qu'elles se sont mélangées, c'est plus des gouttes, c'est une flaque. Il peut pas y en avoir 12, il peut pas y en avoir 10 non plus d'ailleurs.
Alors je me demande vraiment pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes.
Ah moi aussi c'est des drôles de gouttes, je sais pas comment vous avez pu les compter parce que dans le flacon j'en vois pas non plus.
Mais mon pauvre ami, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs c'est bien simple, je vais les remettre dedans.
Ah, oh, vous voudrez pas y retourner.
Je voudrais bien voir ça avec un compte-gouttes comme j'en ai un.
C'est vrai qu'il est superbe.
Je pense bien, c'est un compte-gouttes de Besançon. Ça va être puissant comme compte-gouttes. Vous allez voir comment elles vont y remonter plus vite que ça.
Vous croyez qu'elles vont y remonter dans l'ordre?
Non, mais ça fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes, il a pas spécifié qu'il fallait que je les choisisse particulièrement.
Ça fait rien, ça doit pas être bon pour la santé, des gouttes qui se sont mélangées comme ça.
L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis regardez bien, parce que je vous préviens, ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre.
Vas-y, je suis curieux de voir ça.
Youp!
Non, pas youp, fuite, ça fait fuite.
Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Un outil soigné comme ça, je vous jure qu'on peut faire du bon boulot avec.
Eh, seulement elles sont remontées trop vite, vos gouttes, vous n'avez pas eu le temps de les compter.
Et j'ai pas essayé un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne fonctionne que dans un sens.
Ah.
Oui, ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui rentrent. Enfin, il y a un sens, quoi. C'est comme les tire-bouchons.
Bon, ça... Hein.
Quoi, les tire-bouchons, ça attire les bouchons vers le haut. Le compte-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas.
Vous êtes sûr que c'est vraiment un compte-gouttes de Besançon?
Je pense bien, enfin, c'est pas plus authentique comme compte-gouttes. C'est maman qui l'a acheté là-bas.
Ah, il est de Besançon, votre maman?
Oui.
Merci, les garçons. Il y a eu un petit... Bah oui, c'est un moment de radio, hein, François Morel.
Oui, parce que je croyais à chaque fois qu'on allait s'arrêter.
Oui, c'est ça. On croit toujours qu'on va s'arrêter.
Je ne savais pas jusqu'où on allait aller.
Alors, cette pièce est un objet scénique difficilement identifiable, hein, parce qu'on ne sait pas très bien si on est dans le loufoque pur, dans le tragique désuet ou dans l'intuition philosophique.
Ou dans la blague de Potache.
Oui, et dans aussi. Tout ça aussi à la fois, moi,
ben
je
oui,
crois.
Tout ça.
Oui, c'est vrai que c'est une blague, c'est de la, un petit peu de la métaphysique, un petit peu de la rigolade, un petit peu de la, tout ça, un petit peu mélangé.
C'est vrai que c'est un ovni dans le paysage théâtral, comme, de l'écriture théâtrale. C'est vrai.
Oui, ça, c'est au carrefour c'est de plein de choses aussi, oui, je trouve. Du théâtre de l'absurde que vous disiez. En même temps, il y a un petit côté cabaret, les années 50, il y a eu plein de duos, formidables. Poiré et Serrault, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Victor Lanoux, Pierre Richard, Noir et Darras, les frères ennemis.
Laurel et Hardy?
Non, c'était avant ça.
Non, mais on y pense.
Non, mais c'était sur les mots aussi. Alors, oui. J'ai essayé de,
Tarzan et Jane.
Moi, j'essaie de faire un régime depuis deux mois, justement, pour pas qu'on dise que ça fasse Laurel et Hardy, mais j'ai pas encore réussi.
Parce qu'on ne sait pas qui fait Laurel.
Bon, c'est une idée. D'accord.
Le titre, quand même, c'est peut-être une indication assez formidable. Les diablogues, c'est comme si le diable s'immisçait dans les dialogues.
Oui, c'est un peu ça, oui. C'est vrai. C'est un peu, c'est vrai, c'est un peu ça, comme s'il y avait un petit diable qui s'immisçait dans la conversation et qui détourne du coup les points de vue et qui désaxe les idées et qui nous surprend à chaque instant. C'est joli comme.
C'est dans le titre. Tout est dans le texte, comme toujours. Alors, de quoi on parle au juste? Parce que là, on a évoqué le compte-gouttes, on a évoqué au début de l'émission deux hommes qui font un plongeon.
Ensemble. Oui, c'est ça la difficulté. C'est ça qui est tragique. C'est ça. Ça commence par un moment tout à fait tragique. C'est qu'ils veulent plonger ensemble. Donc, comment faire pour plonger au même moment? Ça raconte d'ailleurs leur relation. Ils veulent être ensemble. Ils sont perdus. Ils sont l'un sans l'autre. Et en même temps, ce sont pas des amis. Je sais pas.
On ne sait pas.
L'un pour l'autre.
Oui.
On sait pas.
Alors, je prends juste des petits exemples. Est-ce que pour faire un dos, il y a un exemple, je sais pas si on peut parler de sketch, en tout cas de scénette que j'aime beaucoup.
Oui. Parlons-en.
On peut?
Oh bah oui, il y a un truc, une espèce de snobisme qui voudrait qu'on dise plus le mot sketch.
Oui, alors,
finalement, exactement des sketchs.
J'ai des sketchs, voilà.
Donc, exemple
on en fait
de quelques sketchs.
Pas seulement en colonie de vacances.
Est-ce que, par exemple, pour faire un do, il faut appuyer sur les touches du piano avec n'importe quel doigt de n'importe quelle main? C'est une splendeur. Ou encore, pour être mouillé, il faut un de l'eau, deux, une chute. Et puis, voilà. Ou encore, pour décrire une montagne à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, on finit par dire que ça ressemble à une baleine accidentée. Donc, on est à la fois dans le quotidien, mais le quotidien est un prétexte formidable.
Je trouve que c'est aussi un hommage au théâtre et aux mots, c'est-à-dire que ces personnages-là n'existent que par le langage. Et c'est vrai que ça serait comme un monde où l'image n'existerait pas, où personne n'aurait jamais vu, par exemple, des photos de montagne, des images de montagne. Alors, quelqu'un se sert du théâtre pour expliquer ce que c'est que la montagne à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Et tout d'un coup, ça donne des images, oui, poétiques et des images de grâce au langage.
Parce que c'est des personnages qui sont délestés de comme si d'un seul coup on décidait d'être délestés de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a vu, et donc on parlerait des choses complètement différemment, bien sûr. Quand il parle de la pluie, le personnage dit qu'il n'aime pas se promener sous la pluie. Et qu'on en arrive à dire, mais c'est parce que vous craignez la police, entre ce moment-là et ce moment-là, ben, il y a tout un sketch, mais qui passe par des territoires inoccupés, quoi. On sait pas, les personnages sont en état d'innocence.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur scène, il n'y a rien. Il y a juste deux personnages, deux êtres humains, posés sur un plateau. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de psychologie.
Non.
Est-ce que pour autant, ça se réduit pour vous à une sorte de ping-pong verbal, François Laurel, Jacques Gamblin?
Ah non. Ça aurait pu. Ça aurait pu avoir juste ce formalisme-là et cette sécheresse-là, parce que ça aurait été aussi très amusant. Mais je crois que ce qu'on a eu envie, et Anne Bourgeois, parlons-en,
qui
met en scène le spectacle, a été tout de suite là-dessus aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement des deux hommes qui sont pas d'accord et qui sont en conflit permanent et qui nous font rire parce qu'ils sont pas d'accord. Peu à peu, au fil des sketchs, il y a un parcours. Je pense que il y a plus que les mots. Il y a aussi un désir l'autre devient indispensable. Le désir de comprendre l'autre et sa pensée.
Et en même temps, pour que ça marche, il faut qu'il ne soit d'accord sur rien.
Bien sûr.
Oui, ils essaient de comprendre le monde à travers l'autre, et c'est compliqué. Donc c'est, il y a plus de, souvent, quelquefois, en tout cas, c'est joué comme des gens qui combattent l'ennui, alors que on l'a pas joué comme ça. On a joué comme des gens qui ont envie de comprendre, et qu'il y a une frénésie, un désir immense de comprendre l'autre et de tout comprendre, et d'échouer souvent dans la compréhension de ce monde qui les dépasse évidemment beaucoup.
Alors la grande force des Diablogues, c'est le texte, mais c'est aussi le tandem que vous réalisez tous les deux. Est-ce qu'il faut forcément un monsieur loyal quand on est...
En tout cas, nous, on a voulu justement s'amuser à faire que l'un n'ait pas un rôle définitif déterminé, mais qu'on puisse s'amuser justement avec le dominant, le dominé, le clown blanc devient l'auguste et lycée de Versailles.
Il n'y a pas de monsieur loyal, ce sera Anne Bourgeois, monsieur loyal, qui est mis en scène. Mais il y a à chaque sketch, ou presque à chaque sketch, effectivement, un auguste et un clown blanc, un dominant, un dominé. Mais c'est jamais le même.
Mais c'est pas toujours le même.
C'est, voilà, on alterne, c'est pour ça qu'on s'amuse aussi, c'est qu'on n'est pas calé dans des chaussures d'un bout à l'autre.
Personne n'aurait voulu faire le clown blanc à longueur de spectacle.
Oh, c'est pas drôle, ça. Est-ce que Dubillard a laissé des indications, des didascalies?
Non, il y en a très peu d'indications sur le texte. Il y a les dialogues.
Il y en a sur le dernier sketch qu'on fait qui s'appelle Bébé aux musicologies, où il dit qu'il faut prendre des très grands temps entre chaque réplique.
Oui, mais un temps, c'est tout.
Qu'il faut pas faire de littérature, qu'il faut surtout pas chercher à comprendre un sens, une signification cachée, peut-être rester dans le jeu de l'enfance.
Oh, il y a ça aussi, oui, bien sûr.
Hein, oui. Vous êtes des sales mioches, hein, c'est la condition pour jouer ça.
Oui, qui se demandent s'ils sont adultes ou pas encore, ou à quelle heure, ou voilà, c'est autour de ça.
Mais je trouve dans l'enfance, ça rejoint la question philosophique, pourquoi on est au monde ? Et l'étonnement d'être au monde, c'est ce que jouent ces deux personnages.
Et on retrouve l'effroi de Dubillard qui fait dire à un de ses personnages, l'existence lui fait un drôle d'effet. C'est pas un drôle, hein, c'est un angoissé.
C'est un drôle et c'est un angoissé, ouais, c'est les deux.
Ouais. Et on sent qu'il fait la nique à l'angoisse, au désespoir avec ces diablogues-là, bien sûr.
Alors vous, Jacques Gamblin, qui est un athlète, vous faites du vélo, de la course à pied, vous êtes un avaleur de kilomètres, c'est comme ça qu'on vous présente. Est-ce que ce théâtre qu'on peut présenter au troisième degré comme un théâtre bavard vous permet d'être aussi un acteur physique ?
Oui, c'est pas un spectacle extrêmement en mouvement, hein. On a inventé plein de choses en répétition qui peu à peu se sont réduits, parce que c'est logique, il y a deux fauteuils club, il y a un univers un peu cosmique d'étoiles comme ça autour de nous, ça c'est la scénographie, mais autrement on bouge peu, mais il y a par moments l'occasion de le faire, oui, bon, à un moment donné quand il veut expliquer à son collègue qu'est-ce que c'est la montagne, l'alpinisme, il est passionné d'alpinisme d'un seul coup, bon, sur un sketch, hein, bon, et il se met, c'est vrai, à escalader ce fauteuil de partout, tout le monde se demande ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce
On est dans du Buster Keaton.
Voilà,
quasiment.
Complètement. Voilà, il y a les jambes en l'air, à droite, à gauche, toc toc, et puis il se retrouve assis, et puis il dit l'alpinisme. Ça, ce qu'il vient de faire n'a rien à voir avec ça, mais. Bon, voilà, ça c'est pas des indications de Roland Dubillard, c'est effectivement des inventions ces inventions pour le spectacle. Il y a des moments comme ça, mais en gros c'est un théâtre qui est assez statique, parce que le mouvement il est dans la pensée en permanence, il est dans les mots, dans les rythmes. Voilà.
Et vous, François Morel, qui nous avez habitué avec la création de personnages familiers, avec le fameux monsieur tout le monde, le paumé de la vie dont vous souriez, je pense notamment aux Deschiens. Est-ce que pour vous une partition de Dubillard, c'est une partition sur mesure? Est-ce que vous vous sentez un enfant de l'esprit de Dubillard?
Curieusement, assez, oui. J'ai l'impression que j'arrive à parler le Dubillard assez facilement.
Couramment?
Ouais, finalement, oui, bizarrement. Et puis, il y a chez lui une langue qui est tout à fait originale et qui ressemble à rien d'autre. Moi, la question qu'on pouvait se poser quand on a commencé à aborder le travail, c'était est-ce que ça a vieilli? Parce que c'était écrit dans les années 50. Et finalement, sûrement que Jacques, moi et plein d'autres gens, on est un petit peu des enfants de Dubillard, même sans le savoir. C'est-à-dire que c'est un esprit d'absurde et tout ça qui est passé à la radio, à la télévision, et que finalement, même sans savoir qu'on dit du Dubillard, de temps en temps, on a un peu cet esprit-là. Et ça n'a pas vieilli du tout. C'est-à-dire que dès que le public est là dans la salle, il est étonné par la façon dont ça marche à l'intérieur du cerveau de Dubillard, parce qu'on a l'impression quelquefois que le sketch s'écrit presque sous nos yeux, quoi. On a l'impression que quand il écrit une réplique, il sait pas du tout où il va aller, et c'est ce chemin-là qu'on fait avec les gens, quoi. C'est ça qui fait qu'il y a du rire et qu'il y a de l'étonnement tout le temps.
J'ai l'impression que que les gens sont embarqués dans un truc, c'est difficile de se mettre à leur place, hein, on n'y sera jamais, mais qu'ils sont embarqués dans un voyage là et qu'ils lâchent pas, quoi, que c'est finalement tendu, c'est très détendu comme spectacle, mais c'est tendu par ce qui se dit et on sait pas ce qui va arriver, et du coup ça les entraîne dans un truc où ils sortent de la salle. Ouais, voilà, ils disent ça fait du bien parce que ils ont décollé, quoi, ils sont partis ailleurs, ils ont pas eu le temps de retomber entre temps. Voilà. Je pense que c'est ça que ça doit produire. En
fait. Merci Jacques Gamblin, merci François Morel. Je rappelle qu'il est fortement recommandé d'aller vous voir dans les Diablogues de Roland Dubillard, mis en scène par Anne Bourgeois, au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 31 décembre. Dans quelques secondes, votre journal. On se retrouve juste après pour plus de musique, de théâtre, de cinéma avec le